Kayvan est musicien. On l'avait rencontré chez lui, à Montreuil, pour notre épisode travail dans la première saison d'Extra. Dans ce portrait, on a voulu vous en dévoiler un peu plus sur ce personnage, son rapport à la musique, à son instrument et à une figure tutélaire, son père. L'occasion aussi de vous faire entendre sa musique tout au long de cet épisode. Kayvan, portrait d'un musicien, c'est le deuxième volet de cette intersaison d'Extra.
Il y a des histoires magnifiques. Il y a un maître flûtiste indien qui s'appelle Chaurasia, mais qui est vraiment une légende un peu de la musique classique indienne. Il était d'une famille de lutteurs. Et lui, il entend la flûte à la radio d'un grand maître. Et il dit, mais c'est pas possible, c'est sublime, je veux faire de la flûte. Et on lui interdit. On lui dit, mais non, mais c'est juste, tu ne vas pas toucher cet instrument. Donc il se cache avec sa flûte pour bosser. Et puis, à un moment donné, il va voir le maître l'entend, il est stupéfait, il accepte que ce jeune garçon devienne son élève, et il va devenir Hari Prasad Chaurasia, la légende de la flûte bansuri, la flûte indienne. En fait, mon père, c'est quelqu'un d'assez pudique et assez secret. Et c'est peut-être même l'une des clés qui a fait que finalement on est allé vers... Parce qu'avec mon frère, on travaille tous les deux la même percussion que lui joue. Lui, c'est un maître vraiment des percussions persanes qui s'appelle le zarb. Et c'est vrai que depuis qu'on est enfant, on l'a toujours entendu travailler à la maison, faire ses gammes. Parfois même quand on regardait des films, il se mettait dans un coin, il regardait le film, mais tout en faisant ses gammes avec l'instrument. Et puis on a des souvenirs extraordinaires, enfants de soirées où on s'endorme. Ça jouait dans la maison avec des maîtres de musique iranienne. Et puis voilà, on était sur les coussins, on s'endormait, ça jouait. C'était vraiment des grands musiciens dans une atmosphère très chaleureuse, très, très intime. C'est des souvenirs incroyables. Il y a un truc qui était très chouette aussi avec mon père, c'est qu'il est dépositaire un peu comme ça d'une culture, voilà, quelque chose de très, très fort. Donc cette musique classique est très codifiée, il faut des années d'apprentissage. Et en même temps, il a une très grande ouverture. Il y a quelque chose pour moi qui a été important, par exemple, quand j'étais ado, j'ai envie de faire de la batterie. Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire de la batterie, j'ai vraiment envie de travailler ça. Et dans les 2-3 mois qui venaient, il s'est débrouillé pour m'acheter une batterie. On vivait dans les Alpes de Haute-Provence et il y avait de l'espace pour travailler. Et si tu veux, alors que lui était dépositaire d'une culture, d'une tradition avec un tambour, il aurait pu éventuellement mal prendre le fait que j'ai envie de faire de la batterie qui est quand même complètement occidentale. Et pas du tout, au contraire. Mais donc, voilà, on a à la fois... eu ce père qui travaillait à la maison, qui faisait ses gammes, puis aussi les concerts qu'on allait voir, où il jouait. Alors c'est marrant parce que ces concerts, en tout cas moi personnellement, ça m'ennuie. Je trouvais ça plutôt ennuyeux. C'était des concerts où j'avais pu aller voir quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, et au bout d'un quart d'heure j'étais sorti parce que je trouvais ça vraiment pas intéressant. Il y a une espèce de virage vers 16-17 ans d'ailleurs, où j'ai commencé à écouter, à l'époque c'était des cassettes, tu sais, des cassettes audio, quoi, où on... Et j'écoutais les concerts qu'il avait fait, toujours avec des grands maîtres iraniens de musique savante classique. Et je me souviens d'avoir eu énormément d'émotions et d'être vraiment bouleversé par cette musique. Souvenirs aussi très drôles où il y a des élèves qui viennent, qui sont des percussionnistes, qui sont des batteurs, qui viennent prendre des cours. Et en fait, moi, je suis là à jouer avec mes petites voitures, avec mes bouquins, mes jeux. Et puis, de temps en temps, je prenais la percussion. Et puis, je joue les trucs que mon père montre, tu vois, mais tout de suite. et les mecs étaient souvent verts. Et en fait, moi, c'était pas du tout. J'avais pas du tout envie de. Enfin, c'était voilà, je réfléchissais pas quoi. C'était juste que j'avais tellement entendu ces rythmes et parfois même avant qu'ils jouent les rythmes suivants, j'imaginais déjà quels allaient être les rythmes, et c'était ceux-là. Mon père était beaucoup en concert, mais quand même, quand je lui ai dit que je voulais jouer du zarb et que je voulais travailler ça sérieusement, il a été très généreux dans l'enseignement, pour le coup. Et c'est vrai que c'était complètement incroyable, parce que je pense qu'il y avait toute une espèce de maturation par imprégnation, tu vois. Et quand on a commencé à travailler ensemble, c'est allé très très vite. Je savais pas du tout quoi attendre de ce rapport, comment ça allait être la vie professionnelle. Je ne savais pas si j'allais être professionnel et je ne me suis pas forcément beaucoup projeté dans tout ça. C'est-à-dire que j'avais envie de bosser la musique, je l'ai fait et je me suis laissé porter. Probablement le fait d'aller travailler la percussion qui jouait, c'était aussi un moyen d'aller vers lui et de faire un pont entre cet homme qui était... qu'on voyait peu, qu'on respectait. Moi, quand j'étais gamin, c'est génial parce que j'étais très impressionné, quoi. Il m'impressionnait beaucoup. Je pouvais éventuellement avoir un peu peur de lui, alors que bon, c'est une crème en vérité. C'était vraiment un hyper gentil. Mais il y avait un côté très autoritaire. C'était un homme de peu de mots. Des fois, quand il était, on en rigole aujourd'hui tous les enfants parce que quand il faisait comme ça. Juste ça, et tous les enfants nous remontaient dans nos chambres. On avait tous, d'un seul coup, on avait un truc à faire, une chambre à ranger. Parce qu'il y avait une sorte d'autorité comme ça qui nous marquait, quoi. Quand même des souvenirs de moments où ça a été compliqué à la maison financièrement. Et j'ai des souvenirs, par exemple, à un moment donné, il était embauché par Peter Brook. Donc, il était dans une pièce qui s'appelle le Mahabharata. Et là, d'un seul coup, il s'est mis à tourner dans le monde entier. Et surtout, on avait une visibilité sur plus d'un an, sur plus de quelques mois. Et avec des revenus qui étaient corrects. Et donc, c'était incroyable pour nous. Était beaucoup dans le milieu des musiciens iraniens qui connaissaient rien. Et donc, quand on a commencé à bosser en trio familial avec mon frère et mon père, à un moment donné, on jouait énormément. Et là, il a pu devenir intermittent. Il n'en revenait pas, quoi. C'était génial. On était contents aussi. Et soit mon frère ou moi, il y avait une sorte de... Peut-être pas de fierté, mais on était contents d'avoir pu lui donner ce statut, ouais, qu'il obtienne ce statut. Être musicien, c'est la quête d'une vie un peu. C'est vraiment... et c'est plus que la quête d'une vie, c'est apprendre la vie. Une manière d'apprendre la vie. Parce que au travers de ton travail avec ton instrument, il se joue plein de choses, en fait. Et c'est complètement... en tout cas, pour moi, c'est complètement passionnant. Et j'ai pas envie de m'arrêter. D'abord, il y a ce rapport, effectivement... la quête à la fois d'un son et d'un langage. Parce que la musique, qu'est-ce que c'est ? C'est des suites de sons. Il y a cette chose incroyable quand on est musicien, c'est ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt à la maison, dans le travail, dans une espèce de travail intérieur, où on développe les outils techniques, on développe un langage aussi, une manière de faire des choses qui font du sens avec un instrument. Donc c'est difficile, mais en même temps, c'est incroyable, cette espèce de travail comme une méditation un peu. Et on s'aperçoit que, qu'on le veuille ou non, de toute manière, on joue ce qu'on est un petit peu. On grandit, on mûrit, on s'interroge, et que tout ça, il y a une trace sur l'instrument et sur ce qu'on donne aux gens. Donc il y a à la fois ce côté intérieur, et puis on donne des choses aux gens, on joue pas que pour nous aussi. Et donc il y a ce travail aussi d'aller vers les gens, de jouer pour eux, qui est aussi complètement passionnant. Et ce rapport aux gens, aussi, c'est quelque chose de passionnant. et de très très nourrissant. Quand tu donnes des émotions, du plaisir, de l'amour de cette manière, c'est quand même aussi ça, hein. C'est quand même hyper émouvant et hyper fort.
اگر از فرد برون شد دل من عیب مکن شکر ایزد که نه در فرده پندار بماند گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس شیوه تو نشدش حاصل بیمار بماند از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوی گرفتار بماند
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.